On se retrouve avec Jérôme Coutadeur. On est en novembre 1870 et on va expliquer un petit peu ce qui se passe entre Orléans et Paris, entre les Français et les Prussiens.
Voilà, donc nous nous retrouvons début novembre 1870 où va se passer un événement important. Gambetta arrive à convaincre Dorel de Paladine, malgré ses réticences, à prendre l'offensive, à marcher vers le nord. Et tout va se passer donc de Tours et de Bourges, de Tours et de Vierzon, où l'armée française prend l'offensive et marche en direction d'Orléans. Van der Tann fait sortir, donc le commandant du premier corps d'armée bavarois, fait sortir ses troupes, et tout le monde se retrouve dans la plaine autour du village de Coulmiers. Donc nous sommes dans Loiret, à la limite de l'Eure-et-Loire, et à Coulmiers va se passer une grande bataille qui va durer que le 9 novembre 1870, et c'est la seule et unique victoire française. Mais plate, parce qu'il y a eu d'autres combats, on a parlé de Bapaume dans le nord, de Pont-Noyel, mais Coulmiers, c'est vraiment une victoire écrasante. Alors attention, il faut prendre il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de hauteur, puisque les Français étaient quasiment deux fois plus nombreux que les Bavarois. Mais en face, les Bavarois étaient des soldats d'élite, des soldats qui venaient de faire la guerre depuis 3-4 mois, qui connaissaient leur boulot, avec un armement supérieur.
Et puis c'était un combat peut-être pas si important que ça.
Si, c'était une grosse d'accord. bataille, et les Français auraient pu détruire totalement le premier corps d'armée bavarois si la cavalerie avait été mieux utilisée, et notamment la cavalerie du général Michel, celui qui avait chargé à Reichshofen quelques temps avant, avec ses cuirassiers qui commandaient la cavalerie, et le général Rio qui sera un petit peu mis en exergue après cette bataille, parce que la cavalerie n'a pas été utilisée et aurait pu détruire complètement le premier corps d'armée bavarois. Toujours est-il qu'à l'issue de cette bataille, les Bavarois se replient vers le nord et abandonnent Orléans. Toute Orléans, la ville est reprise, donc le 9 novembre et le 10 novembre, et des troupes réintègrent la forêt. Donc on passe la Loire, on repasse la Loire pour réoccuper Neuville-aux-Bois, Chilleurs, donc l'armée française va installer ses avant-postes à Chevilly et à Artenay, sur la route, toujours pareil. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc l'idée, ça aurait dû être de remonter tout de suite vers Paris, de marcher. Mais, encore une fois, Dorel de Paladine dit « on n'est pas prêt ». On a battu un corps d'armée bavarois, les Prussiens vont envoyer tout ce qu'ils ont, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et donc, malgré la guéguerre politique militaire, on va s'installer à Orléans. Et là, le 12 novembre, deux jours après la bataille, trois jours, a lieu la conférence d'Ingré, où va se décider la création du camp retranché d'Orléans. Et donc on va créer un camp retranché, on va amener toutes les troupes dont on dispose, on va créer de nouveaux corps d'armée, on va créer une ligne de postes, d'avant-postes le long de la visière de la forêt, on va créer des batteries d'artillerie, des tranchées à Chevilly, à Artenay, et on va créer derrière ces avant-postes, on va organiser l'armée. Et là, entre le mois de novembre, le mi-novembre et le début décembre, vont arriver sur la Loire quasiment 5 corps d'armée, 6 corps d'armée. Le 15e qui est déjà, le 16e de Chanzy, le 17e corps d'armée qui va devenir célèbre à Louigny sous le commandement du général de Saunis, le 18e corps d'armée et le 20e corps d'armée. Tous ces corps d'armée créés à Vierzon, à Bourges, etc. vont se rassembler sur la Loire. Et donc une immense armée va s'installer sur près de 100 km entre Orléans d'un côté, un petit peu à l'ouest d'Orléans, on va dire au début de la Beauce, jusqu'à Beaune-la-Rolande, tout au nord de la forêt.
Et là, on se dit, les Français vont réussir à remonter sur Paris.
C'est l'idée. L'armée Gambetta a réussi le coup de force de rassembler près de 200 000 hommes. 200 000 hommes avec près de 200 canons. Et on se dit, effectivement, on va pouvoir monter sur Paris. Et Gambetta veut que l'on monte sur Paris. Et donc, à l'issue de cette conférence d'Ingré, la création du camp retranché d'Orléans, on va imaginer une stratégie, cette fois une grande offensive, vers Paris. Donc, avec l'aile droite de l'armée qui est autour, au sud de Beaune-la-Rolande, et l'aile droite qui est autour d'Orléans. Tout le monde doit converger vers Paris en marchant au début décembre 1870. Pendant ce temps-là, on essaye de communiquer, alors c'est un peu compliqué, avec Paris, pour que les troupes de Paris fassent une grande offensive vers le sud. Et donc, l'idée, c'est de se rejoindre, de sortir de Paris et de monter d'Orléans pour se rejoindre et cacher le siège de Paris.
On communique avec des ballons,
d'ailleurs. Oui, ballons, voilà. Des pigeons, voyageurs, des espions, etc. Mais là, entre un fait extrêmement important qui va tout changer. Le 27 octobre 1870, quelques jours avant, Metz capitule. Le maréchal Bazaine, ça lui a beaucoup reproché, capitule. Libérant ainsi la deuxième armée du général du prince Frédéric Charles, qui, à partir du 27 octobre, va foncer vers la Loire à marche forcée. En 15 jours, donc de la fin octobre au début novembre, mi-novembre, l'armée du prince Frédéric Charles, qui représente environ 60 à 70 000 hommes, des soldats extrêmement entraînés, qui ont combattu à Gravelotte, à Saint-Privat, etc., et ben ils vont se retrouver, début novembre 1870, enfin mi-novembre 1870, sur la Loire. Ils arrivent par l'Est, ils entrent dans le Loiret par Malesherbes, Pithiviers, ils s'installent à Pithiviers autour de Beaune-la-Rolande, et ils vont arriver jusqu'à la Grande Route de Paris.
Donc Bazaine était retranché dans Metz, il arrivait à rassembler autour de lui...
Une armée, près de 100 000 hommes.
Une armée prussienne, et donc là, c'est ces Prussiens-là qui vont
et ben, ils sont libres.
Débarquer dans le Loiret.
Et ils sont libres et ils peuvent venir dans Paris. Mmh. Donc ils vont venir épauler les Bavarois, mmh. qui sont eux... du côté de Chartres, parce qu'ils ont vadrouillé un peu du côté de Chartres. Ce qui fait qu'au début décembre 1870, et là on arrive au terme de notre épisode loiretain, la grande armée française attend, prête à monter, on attend les ordres, on attend. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, se rassemble une grande armée, enfin deux armées, une armée du côté de Chartres et qui va se rapprocher de la route de Paris, donc qui va revenir vers Artenay, Toury, etc., Loigny-la-Bataille, enfin plutôt vers Lumeau, tout ça. Donc voilà, on s'approche du terme. Et de l'autre côté, le prince Frédéric Charles qui organise ses troupes de Pithiviers jusqu'à la route de Paris. C'est la route de Paris qui fait la scission entre les deux fractions de l'armée. Mmh. Et à ce moment-là, Gambetta arrive, parce que Dorel de Paladine veut continuer à organiser ses troupes. Il dit « on n'est pas prêt ». Le 17e corps du général de Sony, c'est absolument pas prêt. Et là, il faut dire deux mots des troupes qui composent ces corps d'armée. Donc elles sont de deux. Il y a deux parties dans ces armées. Il y a des gardes mobiles, beaucoup de gardes mobiles de tous les départements de France, beaucoup. Et puis il y a ce qu'on appelle des régiments de marche, c'est-à-dire des régiments qui ont été formés par les fameux dépôts de jeunes de la classe 1870, qui ont été créés dans toute la France, qui ont été rassemblés de briques et de brocs, et on a créé des régiments qui n'existaient pas, qu'on appelait des régiments de marche. Donc certains régiments sont issus de 20 à 30 régiments différents, des compagnies qui sont arrivées de toute la France, une compagnie de Brest, une compagnie de Toulouse, une compagnie, et on a créé des régiments de marche.
Donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore prêt.
Hein. Exactement, il a fallu amalgamer tout ça avec des jeunes soldats, avec des officiers soit retraités, soit issus du rang, et puis des compagnies qui n'avaient qu'un officier parfois au lieu de trois réglementaires. Mmh. Et avec ça, Gambetta veut qu'on prenne l'offensive.
C'est la discorde entre le politique et le militaire.
Beaucoup. Mais le politique va l'emporter et Dorel de Paladine accepte de prendre l'offensive.
D'accord.
Et donc, il veut... Alors, il y a une première partie de l'offensive qui a lieu le 28 novembre 1870. Donc, la droite de l'armée, sous les ordres du général Crouza, avec les 18 et 20e corps, monte à l'assaut de Beaune-la-Rolande. Ils ont failli encercler la ville à un moment ou à un autre de la bataille, mais le prince Frédéric Charles enverra des renforts qui permettront de tenir la ville, et la bataille de Beaune-la-Rolande sera une défaite. Premier coup dans la grande offensive. Mais le général Dorel de Paladine ne se désespère pas, bien qu'il ne soit pas d'accord, et il ordonne l'offensive de l'autre partie de l'armée, c'est-à-dire la partie gauche.
Et donc, du côté de Loigny.
Et donc, toute cette partie... Alors, la route de Paris à Orléans fait la jonction entre les deux parties de l'armée. Et donc, on va prendre l'offensive à l'ouest de la route, c'est-à-dire à Loigny-la-Bataille, enfin, du côté de Loigny. Et le but est de prendre Loigny, puis de remonter à Saint-Péravy, etc. Et puis après, de rejoindre l'autre partie de l'armée qui, elle, normalement, est montée a pris l'offensive vers Pithiviers. D'accord. Et donc, on se rejoint. Du côté de Fontainebleau, on fait une grande... on doit rejoindre l'armée qui, soi-disant, est sortie de Paris.
D'accord. Alors, c'était le projet. Hein,
c'était le projet. Alors, le premier, la sortie vers Paris a été ébauchée. C'est le 30 novembre 1870. C'est la grande bataille de Champigny. Mais ça va se finir par une défaite. Mmh. Et l'armée française ne pourra pas sortir de Paris. Mais ça, l'armée de la Loire ne le sait pas. Mmh. Et donc, le 1er décembre 1870, par un froid de canard, il a neigé toute la journée. Les Français prennent le château de Villepion, repoussent les Bavarois de Villepion, en avant de Loigny. Et ça va créer, en fait, une décharge d'optimisme dans l'armée française, mais trop important. Ça y est, on est les meilleurs. On a battu les Bavarois, on va marcher, et puis on va les jeter. Et grave erreur, parce que Van der Tann a laissé prendre Villepion, et s'est organisé autour de Loigny. Le lendemain, le 2 décembre, c'est la grande bataille de Loigny-la-Bataille, avec tout ce qu'on connaît. Alors, il faut aller au musée de Loigny.
Ouais, on va en parler.
Le musée de Loigny qui raconte cette bataille. Et du coup... La bataille de Loigny est une catastrophe. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais au musée, tout est expliqué comme il faut avec la charge des oeufs pontificaux, etc., etc. Et le lendemain, donc la bataille de Loigny est une catastrophe, le lendemain, le prince Frédéric Charles ordonne l'offensive générale. Et donc le 3 décembre, c'est l'offensive générale de toutes les troupes de la 2e armée. On va se battre à Artenay, on va se battre à Chevilly et on va prendre Orléans. On va se battre à Neuville-aux-Bois, on va se battre à Chilleurs-aux-Bois et toute l'armée est battue malgré des 13 heures de bravoure. Et donc le lendemain, le 4 et le 5 décembre 1870, Orléans est abandonné par les Français qui vont combattre pendant quelques jours aux frontières de la Loire, c'est-à-dire du côté de Vierzon, etc. Ensuite, on va quitter le Loiret. L'armée va se scinder en deux. Une partie va devenir l'armée de l'Est, la 2e armée de la Loire vers l'Est. La 2e armée de la Loire va aller vers le Mans et finir sous le commandement du général Chanzy. Et l'autre partie va être obligée de se réfugier en Suisse, mais ça, c'est une autre histoire. Le Loiret est occupé par les Prussiens.
D'accord. Donc là, c'est bientôt la fin.
C'est la fin. On est en décembre, mais en décembre 1870, mi-décembre, ça y est, le Loiret est occupé en totalité.
Donc on n'a pas réussi à remonter sur Paris.
C'était une catastrophe.
Paris est toujours assiégé.
Il n'y a pas d'issue. Et au bout de quelques semaines, Paris va capituler. Et on va entamer les négociations de paix.
Et qui vont finir par l'armistice.
Vont finir par la création du grand empire allemand à Versailles. Puis après, le palais des glaces, au palais des glaces, hautement symbolique. Et ensuite, on va se replier. Les Allemands vont nous imposer des contributions de guerre qu'on va piller. On pourrait en parler, mais on n'aura pas le temps là. Et puis après, les troupes allemandes vont quitter le Loiret au fur et à mesure, en février, mars 1870.
Mais il y a une occupation quand même.
Il y a une occupation pendant 2-3 mois, avec des réquisitions, avec des contributions de guerre. Chaque village va être obligé de donner un certain montant. Il va y avoir un gouverneur à Orléans, etc., etc. Donc il y aura une occupation, oui, puisque Orléans, le Loiret sera dans le gouvernement général de Versailles, en fait, et tout ça jusqu'en 1871.
Donc ça, c'est les conséquences immédiates de la guerre, mais les conséquences à plus long terme, finalement, ça va déboucher après sur un esprit revanche. Et puis finalement,
sur la guerre de 14.
On arrivera sur la guerre de 14. Les conséquences importantes de cette guerre de 1870.
Elles sont
au début de cette émission, on parlait d'une guerre méconnue et oubliée, mais finalement, on peut dire que c'est une des guerres les plus importantes, cas du 19e siècle, puisqu'elle débouche sur les guerres.
La Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, et puis les conséquences. C'est fondamental, et ça, on l'oublie totalement. C'est
un enchaînement. Merci Jérôme de nous avoir rappelé tous ces événements importants de notre histoire, de l'histoire de France. Un petit moment juste pour vous parler de l'actualité du moment. Malgré le confinement, en ce moment, on commémore un certain nombre d'événements de notre histoire, surtout au niveau des commémorations du général de Gaulle, puisque en 2020, c'est les 50 ans de la disparition du général de Gaulle, et il y a eu un certain nombre d'émissions qui ont été diffusées, notamment sur France Télévisions. Un autre événement, ça a été mercredi, donc le 11 novembre, l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. Et ce qui a été beaucoup dit, c'est que finalement, ça a été une double panthéonisation, c'est-à-dire que tous ceux de 14 sont entrés au Panthéon derrière Maurice Genevoix. Si vous avez eu l'occasion de regarder cette cérémonie, diffusée sur France Télévisions, une cérémonie vraiment réussie, point de vue théâtral, c'était vraiment très bien réussi avec des effets de lumière, avec une musique très, très poignante, très émouvante. Il y a eu le discours du président Macron où il a cité plusieurs fois d'ailleurs Robert Porchon, l'enfant de Chevilly, le camarade de guerre de Maurice Genevoix. Ça a été quelque chose d'important, donc l'entrée au Panthéon de Genevoix, le Loiretain de cette guerre de 14. Malheureusement, avec ce problème du confinement, il y a beaucoup d'événements qui vont être pas annulés, mais en tout cas reportés sur 2021 quand ça se passera mieux, on va dire. Il y a certaines conférences, notamment une conférence, Jérôme, que vous deviez organiser à Chevilly,
Sur les combats de Chevilly et d'Artenay,
qui devait avoir lieu le 13 décembre et qui sera reportée.
Et allez, si vous avez l'occasion, allez à Loigny une fois qu'on pourra, parce qu'ils ont besoin aussi de visiteurs. Mais c'est le musée de Loigny est formidable. Vous pouvez même visiter le champ de bataille.
Voilà. Donc le musée de Loigny, pour l'instant, ouais, effectivement, il est fermé au public, mais ça rouvrira dans quelques semaines ou quelques mois.
Voilà.
Merci beaucoup. On se avec retrouvera le mois prochain avec notre ami Gérard Boutet, que vous connaissez tous, qui nous parlera de son dernier ouvrage, Le curé de Nice. Voilà. Merci à vous. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Jérôme. Au revoir à tous.
Merci.